Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Comment aider nos familles à réduire leur empreinte sur la biodiversité? Comment leur transmettre les bons gestes, les bonnes actions? Alors, une des réponses, eh bien, c'est le défi famille à biodiversité positive. Porté en France par la Fédération des parcs naturels régionaux, ce dispositif est soutenu par l'Office français de la biodiversité et le ministère de la Transition écologique. En Bretagne, le parc naturel régional du Golfe du Morbihan s'inscrit clairement dans cette démarche. Il propose dans son secteur géographique différents ateliers à des familles soucieuses de préserver l'environnement. Alors avant d'en parler avec Fabrice Jolin, représentant du parc du Golfe du Morbihan, direction Auray, où des familles ont appris cette année à réaliser elles-mêmes des produits ménagers avec des composants naturels. Écoutez bien, il y a plein d'astuces dans ce reportage.
À table. Carrément. On a un bol et tout, c'est bon.
Ouais. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer des recettes assez simples que j'utilise tout le temps. Il y a plein de recettes sur internet, vous pouvez aussi réessayer. Vous pouvez vous amuser en tout cas. Donc on va faire du liquide vaisselle, on va faire de la lessive. Je vais vous montrer trois sortes de lessive. Une lessive avec du savon qu'on a dilué, enfin une lessive liquide. Une lessive à base de cendres qu'on fait dans une cafetière. Et une lessive à base de lierre. Et on va aussi faire donc des petites pastilles WC. Mmh. Alors le côté pastille, c'est pour rendre ça un peu plus ludique, un peu plus sympa. Si vous ne voulez pas faire les pastilles, vous pouvez le faire en pot, en poudre en fait. Cette technique-là, de pastilles, vous pouvez le faire aussi pour le lave-vaisselle. D'accord, on change juste les ingrédients, ça change juste un petit peu. Si ça vous intéresse, moi je peux donner les recettes, c'est pas secret. Et surtout que c'est dur d'en trouver des bonnes. Parce que, combien de fois on met un truc et puis ça ressort tout blanc et qu'il faut relaver. Enfin, on ne gagne pas de temps, on ne gagne pas d'eau, enfin, c'est nul. Donc je suis Florence Artisane, j'interviens dans cette association depuis 7 ans. Donc c'est une association productrice de plantes médicinales sur la commune de Musillac et de Sarzeau. Et d'un autre côté, on intervient dans les écoles, les maisons de retraite ou autres, enfin associations, pour faire découvrir aux gens le pouvoir des fleurs. Alors je vais essayer de montrer que faire ces produits ménagers, c'est pas compliqué, c'est simple et c'est quand même une économie au niveau de notre porte-monnaie. C'est aussi plus respectueux pour l'environnement puisqu'on fait beaucoup moins de déchets chimiques.
Est-ce qu'on peut se rapprocher de la table et juste me présenter les produits de base que vous allez utiliser?
De base, alors on utilise du savon noir. Le bicarbonate, qui est un classique aussi dans le ménage. On a de l'acide citrique, on a aussi des cristaux de soude et on a du percarbonate de soude. Tout ça, c'est des produits accessibles. Après, si on ne les a pas tous, c'est pas grave non plus. Il y en a un qui va plus blanchir pour le linge, il y en a un qui va plus aller manger le gras. Le bicarbonate, lui, c'est vraiment le classique qui fait un peu tout et qui est un peu abrasif. On pourrait prendre de l'argile, la cendre de la poêle de cheminée. On voit comment c'est efficace sur la vitre du poêle. C'est un petit abrasif qui marche très bien. Alors là, j'ai pas de vinaigre, mais il y a le vinaigre aussi qui marche très bien, qu'on peut rendre aussi un peu plus agréable en le mettant des fleurs dedans.
Donc là, c'est les produits finalement, on va les classer totalement naturels.
Oui, en tout cas, oui, ils sont, il n'y a pas d'impact sur l'environnement. Mais alors après, voilà, pas d'impact dans l'environnement, mais il ne faut pas en mettre des tonnes non plus. C'est toujours la bonne dose. Parce que si on en met trop, ça peut tuer aussi la vie du sol, ça va quand même complètement changer la nature du sol. Enfin, du vinaigre, c'est quand même hyper acide, donc ça va, les vers de terre ne vont pas trop aimer et pas trop survivre. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est les pastilles WC, parce que ça, il faut que ça sèche. Donc vous allez voir que c'est facile. Donc c'est à base d'acide citrique. Donc ça, c'est pour détartrer, pour rendre la cuvette blanche. Du bicarbonate, des cristaux de soude, un tout petit peu d'eau. Alors je vous ai mis dedans des huiles essentielles, c'est facultatif. Elles ne sont pas essentielles, car l'odeur ne fait pas que c'est propre. Donc il va falloir vous faites votre mélange de bicarbonate, d'acide, vous mélangez. Et donc après, vous prenez un peu d'eau et vous mélangez à la fourchette au fur et à mesure avec votre petite goutte.
Donc là, vous êtes en train de faire quoi ?
Alors, je rajoute de l'eau aux diverses poudres qui vont composer les blocs WC. Donc, je mélange jusqu'à ce que ça ait la consistance du sable. Je suis Cécile, de Locmariaker, maman de deux enfants. Et donc, je suis venue aujourd'hui pour apprendre à produire moi-même mes produits ménagers. Je fais déjà ma lessive maison, mais j'aimerais bien substituer tous les produits ménagers par des produits naturels et peu coûteux pour faire des économies, pour respecter l'environnement et puis prendre de nouvelles habitudes en fait à transmettre à mes enfants aussi.
Donc les lessives, pour blanchir un vêtement, on prend des feuilles de laurier, les feuilles de laurier sauce, ça va blanchir les vêtements. On fait une grosse décoction, mais on met une poignée par litre de feuilles de laurier qu'on a coupées en petits. On fait bouillir son eau avec les feuilles dedans et on met son t-shirt blanc dedans.
Comment réagissent les gens qui découvrent ça ? Est-ce qu'ils sont étonnés ? Quelles sont les questions qu'ils peuvent poser ou leurs craintes ?
Leurs craintes, c'est que ça lave pas aussi bien que du vaniche. Et que la tâche, eh ben, elle soit toujours là après le... Alors je dis oui, il va falloir frotter aussi si on veut faire disparaître une tache de gras. Il faut mettre du savon avant, il faut aller détacher ce que faisaient nos grands-mères avant ou mettez un tablier pour faire la cuisine. Donc il faut protéger aussi nos vêtements. Mais après, ce qui ressort d'un atelier, c'est qu'ils sont tous surpris de la simplicité, que c'est facile et que c'est pas prise de tête. C'est accessible à tout le monde et avec des produits qu'on trouve partout. Pour détacher le gras sur une tache même sèche, on met de la terre de sommière. Il y a aussi le fiel de porc. C'est bœuf, hein, je crois. Hein. Voilà, c'est pas vegan. Donc ça, vous l'auriez compris. Mais ça marche très très bien aussi.
Je suis Chloé Cordelier et donc j'habite au Ré. Nous sommes une famille de 4, donc 2 ados, 15 et 16 ans, et puis un papa et une maman. Alors, produits ménagers, j'en faisais pas. Donc j'avais essayé un peu avec un ou deux produits, mais en tous les cas, j'ai pas réussi à reproduire. Donc c'est que la recette était pas assez simple, c'était pas assez facile. Enfin, en tous les cas, c'est pas rentré dans mon quotidien. Et c'est vrai que là aujourd'hui, ce qui est super là, avec l'association Artisane, c'est qu'elle nous a donné des recettes qui m'ont l'air faciles. En tous les cas, on a fait des choses qui sont simples et que je vais pouvoir reproduire. Donc je vais tester et si effectivement je valide et que je trouve que c'est efficace, je vais pouvoir refaire facilement.
La lessive à la sonde, c'est vraiment la lessive que faisaient nos grands-mères pour laver les draps. On va extraire en fait la potasse, ce qui va laver. Ici, c'est de la lessive à la sonde que j'ai fait à l'avance. Mm-hmm. Pas parce qu'avec une cafetière... Hein. Oui, liquide. C'est liquide et j'ai mis un petit peu de savon noir dedans pour juste... Sinon, ça fait pas de bulles, hein, ça c'est sûr.
Bah déjà, je trouve que c'est intéressant de faire soi-même et de pouvoir aussi choisir ce qu'on a dans nos produits, de mieux connaître aussi ce qu'on utilise. Et après, bah même en termes à la fois de déchets et puis pour l'environnement, de déchets parce qu'on va acheter moins de choses qu'on va jeter derrière, moins de contenants. Et aussi par rapport aux produits, donc là on est quand même sur des produits naturels, les produits bio. Et donc c'est tout bénéfique, c'est plein de bénéfices pour l'environnement.
Quelle est la recette qui vous a le plus étonné aujourd'hui peut-être ou qui vous a le plus marqué ?
Bah, la lessive à base de cendre, facile. Vraiment, 1 litre d'eau, un filtre, une cafetière et un tout petit peu de cendre et ça, c'est filtré, c'est fait quoi. Donc non, c'est super. On va tester.
Bicarbonate, qui est là pour un peu donner un peu plus de puissance.
Voilà pour ce reportage signé Radio Boa, votre radio associative régionale en Bretagne. Alors pour aller plus loin sur les actions auprès des familles et des citoyens pour protéger la biodiversité, nous recevons aujourd'hui Fabrice Jolin, chargé de mission École du Parc et communication au Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Fabrice Jolin, bonjour.
Bonjour.
Alors, déjà, peut-être une petite réaction par rapport au reportage qu'on vient d'entendre. L'idée de départ, c'était quoi, en fait, d'initier cette action ?
Ben, l'idée de départ, c'est qu'on entend beaucoup parler de transition, transition écologique, transition alimentaire, transition énergétique. Et l'idée de départ, c'était de dire, ben, on va la faire concrètement, cette transition, avec des familles volontaires sur des gestes simples. Voilà, donc on a identifié, enfin on a fait un appel à candidature sur le Pays d'Auray. Et puis il y a 12 familles qui ont répondu à cet appel et qui ont bien voulu s'engager avec nous à faire quelques défis en faveur de ces transitions.
Alors est-ce que c'est, aujourd'hui on peut parler d'un mouvement de fond dans l'idée de, aujourd'hui par exemple, comme on l'a entendu, utiliser des produits ménagers, de les fabriquer soi-même à base de produits naturels?
Ben, je crois, alors je n'ai pas de statistiques précises parce qu'on voit bien qu'il y a encore beaucoup d'enjeux qui restent à relever sur les questions de climat, de biodiversité, etc. Mais on sent bien que les gens ont envie de se prendre en main, de trouver des alternatives. Et ce qui est intéressant, comme l'a montré très bien dans le reportage et notamment l'interview, la réaction de Chloé Cordelier, c'est qu'on utilise des produits très simples en fait. Hein. Une fois qu'on a utilisé du vinaigre blanc, qu'on a utilisé du bicarbonate de soude et puis un peu de savon de Marseille, on arrive déjà avec ces trois produits-là et à faire vraiment, vraiment beaucoup de choses pour l'hygiène du corps ou pour l'hygiène de la maison. Donc c'est un mouvement de fond parce que c'est accessible au plus grand nombre.
Oui, c'est pas très cher, il suffit d'aller dans un commerce, d'avoir ces ingrédients-là et le tour est joué. Quasiment.
Quasiment, oui, c'est vrai qu'on les trouve un petit peu partout. Alors c'est vrai qu'il y a des officines qui sont un peu plus spécialisées et qui ont un peu plus d'antériorité là-dessus, comme les réseaux Biocoop, comme tout un tas de magasins de vrac. Mais aujourd'hui, dans les grandes surfaces, il y a aussi des rayons vrac et on trouve ces produits-là aussi.
Alors avec le défi famille, ce défi famille que vous portez dans le Morbihan, il n'y a pas que des ateliers sur la fabrication de produits ménagers à base de produits naturels. Quelles sont un petit peu les autres actions que vous avez pu mener ces derniers mois ?
En fait, c'est parti d'une réflexion qu'on a menée avec d'autres collègues d'autres parcs naturels régionaux parce que, bon, moi je travaille aussi sur la question de la communication et on dit qu'est-ce que c'est qu'une communication engageante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens pour qu'ils passent à l'acte ? Et on s'est dit, il faut toucher le plus grand nombre. Alors, quand on a un jardin, c'est plus facile de faire des gestes en faveur de la biodiversité parce que quand on met un nichoir à oiseaux ou quand on met un hôtel à insectes ou quand on ne tombe plus sa pelouse, ce qui reste relativement rare, on a des effets immédiats. Par contre, quand on est dans un appartement où on n'a ni balcon ni jardin, c'est peut-être plus difficile. Donc nous, notre parti pris, notre premier engagement, c'était de proposer des gestes accessibles au plus grand nombre, y compris à des gens qui n'avaient pas de jardin chez eux. Donc on a essayé d'identifier des gestes qu'on pouvait faire chez soi, à la maison, mais aussi en dehors de la maison.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire chez soi quand on n'a pas de balcon, quand on n'a pas de jardin et qu'on veut quand même œuvrer pour la biodiversité ?
Alors là, on a eu l'exemple sur les produits avec l'hygiène du corps ou l'hygiène de la maison. Donc ça touche vraiment tout le monde. Et après, il y a une autre action qu'on peut mener de manière assez simple, c'est son assiette. On considère aujourd'hui, enfin en tout cas les spécialistes considèrent aujourd'hui, y compris les gens qui s'intéressent au climat, notamment sur les questions de dérèglement climatique, et c'est aussi d'ailleurs dans le dernier rapport du GIEC, c'est que notre assiette a un impact extraordinaire sur le climat et la biodiversité. Alors c'est moins mesurable que ce qu'on va voir dans son jardin, mais on sait qu'aujourd'hui, par exemple, on est à peu près à 2/3 de produits carnés et un tiers de produits végétaux. Il suffit d'inverser les choses. 2/3 de produits végétaux, 1/3 de produits carnés, et peut-être encore plus de végétaux si on devient végétarien, voire vegan. Mais en tout cas, on sait qu'en réduisant fortement sa consommation de produits carnés, on a un impact extraordinaire sur la biodiversité.
Peut-être d'autres actions emblématiques que vous avez pu mener également dans le cadre de ce défi famille au parc ?
Oui, alors ben, par exemple, pour ceux qui avaient un jardin, on leur a proposé d'aller compter les animaux, en tout cas de favoriser la venue de certains animaux. On leur a proposé de mettre des passages à hérissons, on leur a proposé de mettre des hôtels à insectes, des nichoirs, de réserver aussi des îlots de biodiversité, c'est-à-dire des endroits. Alors, il y a aussi des gens qui veulent continuer de tondre leur pelouse, on peut le comprendre, mais on leur propose de laisser un petit coin dans son jardin pour favoriser la biodiversité. Et puis, on s'est même préoccupé, nous, on avait une petite entrée santé au parc naturel régional du Golfe du Morbihan, comparativement aux autres parcs, et c'était un choix. On a même proposé aux gens de s'intéresser à leur biodiversité intérieure, ce qu'on appelle notre microbiote, et notamment en leur fournissant un livre qui était écrit par une médecin allemande qui a produit un best-seller sur le sujet.
On redonnera les références de ce livre dans le texte qui accompagne cette émission sur Internet. Vous parliez effectivement de ces familles. Est-ce que beaucoup de familles se sont mobilisées? Qu'en est-il un peu de cette mobilisation autour de ces défis familles, s'il fallait faire un premier bilan de cette action?
Alors, en fait, c'est pas si compliqué de mobiliser les gens. Nous, on fait un appel par voie de presse, un appel média. Ça aurait pu d'ailleurs être un appel radio aussi. Alors, nous, on était contraints sur le parc du Golfe du Morbihan, sur le pays d'Auray, parce qu'on avait un financement lié à un projet européen qui nous contraignait, entre guillemets, en termes de nombre de communes. Mais souvent, quand on met en place un geste en faveur de la biodiversité, ou sur l'alimentation, ou sur l'énergie, ou sur les déchets, on va plutôt le faire à l'échelle d'une intercommunalité et on va facilement toucher 30-40 familles. Nous, on s'est rendu compte que sur les 12 familles qu'on souhaitait solliciter à l'origine, on en a eu près de 30 propositions. Après, on a fait aussi, entre guillemets, un choix pour essayer d'avoir une certaine représentativité, une certaine diversité de ces familles.
Vous parliez tout à l'heure du passage à l'acte, justement, parce que effectivement, c'est intéressant d'être conscient qu'il faut protéger l'environnement et protéger la biodiversité, mais il y a un cap avant réellement de passer à l'acte. Est-ce que vous avez vraiment réfléchi aussi assez précisément sur ce passage, justement?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, avant le passage à l'acte, il y a déjà une acquisition de connaissances, c'est-à-dire remettre ça un peu dans son contexte. Pourquoi il faut préserver la biodiversité et pourquoi nous, on a besoin aussi de cette biodiversité et nous sommes cette biodiversité. Et puis après, il a fallu qu'on jongle entre des gestes assez faciles et d'autres un petit peu plus difficiles. Mais je crois que quand on fait des gestes faciles, déjà, ça donne envie. Et puis, une partie de ces gestes, on les a fait aussi accompagner par des structures compétentes qui ont cette capacité à amener des solutions, des méthodes, des produits. On l'a vu là avec Artisan, par exemple, qui en est un très bon,
exemple. Oui. Ouais.
Mais il y a d'autres associations, d'autres structures d'accompagnement qui peuvent le faire. Et ça, je crois que c'est très important qu'une fois qu'on a sélectionné nos familles, qu'elles soient vraiment accompagnées pour qu'il y ait une dynamique qui se mette en place.
Donc la clé, c'est quoi? C'est faire et apprendre à faire?
Oui. C'est faire, apprendre à faire et c'est faire avec les autres. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens finalement faisaient déjà pas mal de choses à la maison, mais des fois pouvaient se sentir un petit peu en marge ou un petit peu décalés. Et que finalement, quand on lance ce type de défi, ce type de démarche coopérative, de démarche collective, eh ben, on se rend compte qu'il y a une humiliation qui se crée. Puis quelque part, ça rassure aussi les gens en disant « Ah tiens, je ne suis pas tout seul. Ah mais tiens, mon voisin qui habite à côté de chez moi, il le fait aussi. » Et des choses qu'on ne savait pas forcément. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu vérifier moi quand on a fait les diagnostics initiaux pour voir un peu comment les gens déjà se comportaient à la maison et qu'est-ce qu'ils souhaitaient faire. Quand on leur a montré la liste des autres personnes qui étaient inscrites, ils se sont dit « Ah, mais tiens, mais lui ou elle, là, il habite à 300 mètres de chez moi. »
Oui, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui sont déjà initiées, qui ont déjà des gestes chez eux.
Oui.
D'ailleurs, une des personnes qui était dans le reportage, elle faisait déjà sa lessive, donc déjà initiée un peu à ses pratiques. Mais ça doit être difficile pour des gens qui partent de rien, qui partent de zéro.
C'est plus difficile pour des gens qui partent de zéro. Alors, je vous avoue que c'est toujours plus difficile aussi de mobiliser des gens qui partent de zéro. On s'est rendu compte, moi j'ai déjà participé aussi à d'autres défis dans un autre cadre que celui du parc. Et souvent, on a quand même affaire à des gens qui sont déjà sensibilisés. Après, tout l'enjeu, c'est de les mettre en valeur, de les faire témoigner pour montrer que c'est facile, que c'est possible et que tout un chacun peut s'y engager. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui d'aller toucher des publics qui sont un peu plus éloignés de ces démarches-là. Mais l'idée, c'est aussi d'identifier, par exemple, des ambassadeurs qui peuvent le faire. Moi, je pense que, par exemple, sur un volet social, c'est très intéressant de travailler, par exemple, avec un CCAS, un centre social au niveau d'une commune, qui connaît ces familles en difficulté, notamment, et sachant que ces gestes-là sont aussi des gestes qui peuvent permettre de reconquérir du pouvoir d'achat.
Alors, est-ce qu'il y a aussi des freins? On va dire des freins sociétales qui expliquent aussi que, bon, pour l'instant, le mouvement, ok, tout le monde a conscience qu'il faut faire quelque chose, tout le monde commence à saisir l'urgence climatique, l'urgence biodiversité, l'urgence écologique, mais est-ce qu'il y a encore des freins sociétaux qui font que, bon, je sais pas, est-ce que la notion de j'ai pas le temps, par exemple, revient souvent?
Oui. Oui, mais en fait, c'est souvent la notion « j'ai pas le temps » qu'on essaye de transformer en « je prends le temps ». Alors, quand je dis ça, c'est assez facile, hein, évidemment, mais derrière, vous voyez bien la logique que ça sous-entend et la démarche que ça sous-entend. Et les freins, effectivement, ils peuvent être là, sachant que après, ce temps-là, c'est du temps utile, c'est du temps qui est joyeux, en fait, parce que quand on prend son temps pour faire ses produits, on a un résultat tout de suite. On sait que c'est bon pour l'environnement, on sait que c'est bon pour soi, on sait que c'est bon pour son domicile. Et finalement, ça tempère le fait de dire « je n'ai pas le temps ».
Donc le ressort, c'est aussi prendre du plaisir,
oui,
pas être
c'est,
contraint. Quoi.
C'est prendre du plaisir. Alors après, il y a un autre ressort peut-être sur lequel il faut qu'on agisse, parce que quand on travaille sur les questions des freins au changement, sur les questions de développement durable, on se rend compte que le conformisme est très souvent mis en avant. C'est-à-dire que finalement, quand au quotidien les choses fonctionnent bien, pourquoi on changerait ? Et on le voit bien aujourd'hui sur la question du climat, c'est pas facile de faire changer les gens. Par contre, quand vous avez un litre d'essence qui est à 2,20 €, déjà, vous commencez peut-être à rouler un peu moins vite ou à vous préoccuper du covoiturage. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer des gestes engageants avant d'être mis au pied du mur. Et finalement, on s'est rendu compte, ça je crois que c'est une donnée sociologique assez intéressante aussi, c'est que la plupart des personnes ou des structures qui se sont engagées dans des gestes de changement n'en ressortent pas. Y compris si le contexte s'est amélioré. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui font du covoiturage quand le prix de l'essence augmente. Mais même quand le prix de l'essence diminue, ils continuent de faire du covoiturage parce qu'ils ont trouvé d'autres ressorts, et notamment des ressorts de coopération et des ressorts d'économie, tout simplement.
Donc là, c'est gagné, il y a une implication durable.
Oui,
quoi.
Tout à fait.
Alors, on a parlé de cette démarche, hein, défi famille, que vous avez menée au parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Est-ce qu'à votre connaissance, en Bretagne, il y a un mouvement aussi un peu général d'actions similaires comme ça ?
Oui, bah là, donc, on est sur le territoire de l'Anestère, donc je pense que vous êtes très écouté sur le pays de l'Orient. On peut citer la démarche qui a été menée par l'Orient Agglomération, qui a aussi animé son propre défi famille, avec une trentaine de familles volontaires, qui a très bien fonctionné aussi, avec beaucoup d'émulation et des résultats très très intéressants, avec une bonne dynamique. Moi, j'ai connaissance comme ça, alors je ne vais pas forcément citer précisément des territoires, mais j'ai connaissance de démarches qui sont menées sur des communes dans le Finistère, dans le Morbihan, en Ille-et-Vilaine, dans les Côtes d'Armor, sur des déchets autour de l'énergie, autour de l'alimentation. Et puis nous, de manière plus nationale, au niveau des parcs naturels régionaux, nous étions un des 8 parcs engagés dans cette démarche. Il y a donc 7 autres parcs naturels régionaux qui ont lancé aussi leur propre défi famille.
Alors, effectivement, on a compris dans ce que vous avez dit que l'implication, le fait de faire ou d'apprendre à faire, c'est quelque chose qui peut inscrire les gens dans une démarche durable,
oui.
Réellement sur la biodiversité. Pour autant, quel est l'avenir de ce genre d'action ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, effectivement, on puisse durablement aussi mener des actions pour impliquer les citoyens ?
C'est une excellente question. Alors, effectivement, ce sont souvent des one-shot, entre guillemets, parce que voilà, ça s'inscrit dans une durée, et surtout quand par exemple une collectivité missionne une structure d'accompagnement des familles, eh bien ça s'inscrit dans une prestation avec un début, un milieu et une fin. Moi je crois qu'aujourd'hui un des enjeux, c'est que je pense notamment au niveau associatif local, on a un tissu associatif qui est quand même très actif en Bretagne. Je pense que les associations pourraient proposer ce type de défi à leur collectivité locale, commune, voire intercommunalité, pour essayer d'élargir le cercle, qui ont les moyens de les accompagner financièrement. Et l'autre enjeu pour moi, c'est que ça soit bien accompagné par les collectivités locales, y compris dans la transformation de leur propre politique publique. Parce que, par exemple, si vous lancez un défi en disant « Tiens, 2 jours par semaine, je vais faire du vélo, je vous propose de faire du vélo », encore faut-il que ce vélo puisse se faire sur des pistes protégées et qui existent. Donc pour nous, enfin en tout cas pour moi, les défis individuels n'auront vraiment d'impact qu'ils sont relayés par les politiques publiques. Et même encore au-delà, je vous invite, vous à la radio ici, qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même pour changer vos pratiques du quotidien et peut-être vous lancer vos propres petits défis sur la semaine. Donc je vous laisse imaginer ce que vous pourriez mettre en place.
On va y travailler avec l'ensemble des radios locales associatives de Bretagne. Fabrice Jolin, merci. Famille et citoyens à l'écoute, vous avez désormais presque toutes les cartes en main pour vous engager. Donc, rejoignez ce type d'initiative comme le défi famille qui a été mené par le parc du Golfe du Morbihan. Merci également à Damien Tillard de Radio Balise à l'Anestère pour la réalisation technique de cette émission. À très vite pour un nouveau numéro de Biodiversité en Air. D'ici là, prenez soin de vous et de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la CORLAB, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.